Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal. Liévin Mbwinga à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, fini le suspense, la RDC sera présente à la CAN Maroc 2025. Les Léopards viennent de battre les Taifa Stars de la Tanzanie par 2-0 au stade Benjamin Paka. Détail dans ce journal. Réactivation des enquêtes sur les crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu par la CPI. Azado salue cette décision du procureur de cette cour internationale. Vous suivrez Maître Jean-Claude Katende dans un instant. Nous allons enfin nous attarder sur notre santé mentale au travail. C'est d'ailleurs le thème de la journée mondiale de santé de cette année. Nous en parlons avec le psychologue Semou Vincent qui est notre invité. Encore une fois, bonsoir. C'en est vraiment fini pour les Taifa Stars de la Tanzanie. Les Congolais ont pris le dessus sur les Tanzaniens à l'issue du match de la quatrième journée joué cet après-midi à Dar es Salaam en Tanzanie. Score final 2-0. Les Léopards de la RDC comptent désormais 12 points, ce qui les met à l'abri de toute surprise. Et cette équipe sera présente à la CAN Maroc 2025. Jean Gandou pour les détails.
Les Léopards de la RDC ont eu leur sésame pour la CAN Maroc 2025 avec une victoire qui s'est dessinée en deuxième période. Pourtant, la possession des balles était pour les Tanzaniens qui devaient gagner ce match pour bien se relancer. Les changements opérés par le sélectionneur national Sébastien Desabres ont été plus que payants car ce sont les joueurs venus du banc qui ont sonné la révolte des Léopards. Les fauves congolais se sont donc imposés sur la marque de 2-0, but signé Meshack Elia. Ces buts libérateurs propulsent la RDC à la phase finale de la CAN Maroc 2025. Et cette qualification est une grande première pour la RDC qui atteint la phase finale à 2 journées de la fin et cela avec le maximum des points sans prendre le moindre but. Habitués au calcul de dernière minute, ainsi donc les Congolais sont dispensés de sortir leur calculette afin de chercher toutes les différentes combinaisons pour trouver les probabilités de se qualifier. Les Léopards ont donc rugi parmi les étoiles nationales tanzaniennes, ne leur laissant aucune chance de briller dans leurs propres installations. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Place à la justice à présent, réactivation des enquêtes sur les crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu par la CPI. Azado s'exprime. L'Association africaine de défense des droits de l'homme salue cette décision du procureur de la Cour pénale internationale. Se confiant ce mardi à Radio Kapi, Jean-Claude Katende, président de l'Azado, indique que cette annonce est une interpellation aux uns et aux autres en vue de changer leur conduite. Toutefois, il invite le gouvernement congolais à s'impliquer aussi dans la lutte contre l'impunité. On est écoute Maître Jean-Claude Katende au micro de Grâce Hamzati.
Vous savez que les M23, comme d'autres groupes rebelles, sans oublier le Rwanda, sont à la base de beaucoup de crimes qui sont encore jusque-là impunis. L'intervention de la CPI ne porte pas sur l'ensemble des crimes. On va identifier quelques crimes graves qui vont être sanctionnés, mais il est important que la République démocratique du Congo puisse engager aussi des actions de lutte contre l'impunité sur base du rapport mapping, principalement pour les acteurs qui sont incriminés dans ce rapport et qui sont aujourd'hui dans la ville de Kinshasa ou qui sont au pays, qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, qui sont dans les institutions. Il faudra que la lutte contre l'impunité ne soit pas seulement une lutte qui se focalise sur la CPI, mais il faut que nos propres cours et tribunaux puissent aussi s'engager dans cette lutte pour mettre la main sur tous les acteurs politiques qui ont été impliqués dans les crimes graves qui ont eu lieu depuis plusieurs années.
3 anciens miliciens de Kamuina Nsapu derrière les barreaux. La cour militaire de l'ex-Kassai occidental a condamné ces personnes hier lundi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Ils ont écopé respectivement 20, 15 et 10 ans de servitude pénale principale pour les actes commis lors de ces violences meurtrières. Ce verdict a été rendu à la suite des audiences foraines organisées à Kongolomonji, l'une des localités de Kazumba qui avait été touchée par ces événements. Le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit FONAREV, qui a soutenu ces audiences foraines, salue cette décision de justice. Son coordonnateur au Kassai central souligne que cela prouve que l'impunité doit prendre totalement fin en RDC. Miran Moulumba sur des propos recueillis par François Kadima.
Cette sentence du jour, c'est un message très très fort que l'on lance bien entendu à tous les autres compatriotes, que c'est pas aujourd'hui que vous pouvez commettre de faits et que vous devez répondre aujourd'hui non plus, mais il est vrai que chaque chose a son temps. La justice donne l'espoir, la justice console à ce jour les victimes. Je crois que c'est de cette manière que nous devons ensemble bâtir une nation véritablement humaniste et juste. D'où le cap serait ouvert pour le processus d'identification des victimes qui doivent logiquement être bénéficiaires de mesures réparatrices collectives individuelles. Mais hélas, je lance aussi un appel à toutes les autres victimes que aujourd'hui, pas mal de dossiers qui sont pendants devant les instances judiciaires. Nous leur assurons que le Fonds national de réparation est résolument engagé pour voir comment accompagner la justice militaire pour que ce que nous avons connu dans cette partie de la République en termes d'atrocités durant les événements du phénomène Kamuina-Nsapu, que cela ne puisse pas encore revenir.
Signalons qu'entre 2016 et 2017, l'espace Grand Kassai avait été touché par des violences liées au phénomène Kamuina-Nsapu, événement qui avait occasionné des morts, des destructions méchantes et d'autres faits malheureux. 10e anniversaire du début des massacres de Beni au Nord Kivu, une messe œcuménique a eu lieu ce mardi au stade de Ngadi de Beni pour commémorer cet anniversaire. Une foule composée des habitants de la ville et du territoire de Beni a répondu à l'appel de la société civile. Des témoignages poignants des survivants ont été partagés. Tous estiment que les victimes ont droit à la justice et à la réparation. Marc Marofimbo pour le reportage.
Tout est parti bien avant les opérations Keba 1 qui étaient dirigé par le général Mbuyi Moussa Mojène, où on était venu traquer les ADF da, les Chuchubo et Abialossé.
C'est le témoignage des survivants du territoire de Beni qui retrace l'historique des massacres en ville et territoire de Beni devant une foule composée de membres de différentes confessions religieuses et d'autorités militaires. C'était du jamais vu, a déclaré Ira Dubatso, un survivant du massacre de Ngadi le 15 octobre 2014.
Nous, on n'avait jamais vu la tête d'une personne déchirée. On n'avait jamais vu une personne être éventrée. On n'avait jamais vu les intestins d'une personne à l'extérieur. On voyait dans des cinémas. Mais ce jour-là, nous avons vécu ça à live. Et jusqu'à présent, cette histoire a créé des blessures dans le cœur de la population.
Beaucoup attendent justice et réparation. Benjamin Asimoni, le coordonnateur des jeunes patriotes consolidateurs de la paix de Beni, s'est exprimé sur le sujet.
Toutes les personnes qui vivent en ville de Beni sont des victimes, soit directes, soit indirectes, de ces massacres. On doit commémorer ces personnes que nous avons perdues en exigeant à ce que les dommages soient réparés à travers tous les mécanismes de justice transitionnelle.
Pendant ce temps, la population d'Ngadi souhaite voir un mémorial du massacre être érigé à l'entrée du stade d'Ngadi, où le premier massacre a eu lieu et non ailleurs, comme le veulent les autorités. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Et pendant ce temps, une autopsie de la justice transitionnelle se déroule au Congo central. Il y a eu en effet ouverture ce mardi à Zongo d'une retraite d'évaluation et actualisation du projet de la politique nationale de justice transitionnelle en RDC. Organisée par le ministère des Droits humains, ces assises de 4 jours réunissent des experts de différentes parties prenantes, notamment le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. On écoute Jules Mongungu, expert, conseiller et représentant de la ministre des Droits humains dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Tenant compte de l'évolution du temps, tenant compte de l'évolution de la politique, nous nous retrouvons actuellement ici à Zongo pour essayer d'actualiser ce projet, contextualiser ce projet qui avait été réalisé en son temps, afin que le processus de sa mise en œuvre puisse se poursuivre de manière aisée. C'est un processus qui est plus ou moins long, mais c'est un processus qui doit amener tout le monde à y participer. La justice transitionnelle, c'est un mécanisme qui est mis en œuvre pour permettre à tout le monde qui se retrouve en fait dans le contexte de guerre. Ça fait plusieurs décennies, nous sommes agressés par des armées étrangères. Et dans ce contexte-là, il faut que la population puisse bénéficier d'une paix durable après la guerre. Le deuxième élément, il faut que la justice soit rendue. Il faut qu'il y ait des garanties que tous les faits qui se sont passés ne vont plus se répéter. Et enfin, il faut que les victimes soient réparées.
Sur terrain cette fois, la situation sécuritaire demeure tendue et volatile ce mardi dans plusieurs localités du territoire de Massissi. Nous sommes bien dans le Nord Kivu. C'est entre autres l'agglomération de Sake, chefferie de Baoundé, et localité de Mouesso, chefferie de Bachali. Hier lundi, ces zones ont été le théâtre d'affrontements violents ayant opposé les rebelles du M23 aux combattants des groupes VDP ou Azalendo. Bernadette Nyangui pour le reportage.
Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, il s'observe une diminution sensible de la fréquence des voyages sur le lac Kivu, affirment les armateurs. Un autre grand problème concerne les habitants des villages riverains du lac Kivu. Ce dernier constitue au moins 70% des utilisateurs du lac pour des échanges commerciaux et qui n'auront plus accès aux bateaux d'après nos sources. Les conditions de navigation la nuit sont plus avantageuses pour faire des escales et manœuvres plus que la journée, car le lac est trop souvent agité. Cela handicape déjà plusieurs activités et échanges commerciaux entre Goma et Bukavu, ainsi qu'une dizaine de villages et ports riverains du lac en territoire de Kalehe et Didji. Des centaines d'habitants qui accèdent aux bateaux depuis les villages, notamment Bugarula, Karulo, Chikoma, Monvu, Kachovu, Ishungu, Birava, Mukwija et bien d'autres dans Kalehe sont ainsi pénalisés et seront contraints de recourir aux pirogues motorisées, ce qui représente encore plus des risques de naufrage. Goma, Sifamagoro, Radio Kapi.
Voilà, vous avez suivi là les suites du naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu. Une dizaine de jours après ce drame, un respect progressif des mesures prises par les autorités nationales est observé. C'est notamment l'interdiction de naviguer la nuit, le port strict des gilets de sauvetage, mais aussi le contrôle par les services étatiques. Cependant, la mesure concernant navigation de nuit suscite des préoccupations des acteurs locaux. Nombreux pensent en effet que cette mesure n'a pas pris en compte certaines réalités locales. C'était un reportage signé Sifa Maguru depuis la ville de Goma. Nous passons à Matadi, où il y a une bonne nouvelle en provenance de cette ville du Congo central. Les déclarants en douane de cette province viennent de reprendre le travail ce mardi 15 octobre. La grève qu'ils observent depuis le début de ce mois a été suspendue depuis hier lundi. Cette décision a été prise à l'issue d'une séance de travail tenue à Kinshasa, à laquelle ont pris part les responsables des corporations douanières, les représentants des institutions intervenant dans le secteur de la douane et le caucus de députés nationaux du Congo central. Cependant, leurs revendications, plus particulièrement celles en lien avec la suppression de la redevance logistique terrestre, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des Enclavements, qui a présidé cette réunion, a levé l'option de mener un audit en y impliquant l'inspection générale des finances sur l'utilisation de ces recettes. Suivait le représentant du rassemblement des déclarants consciencieux. Les propos de Bruno Nzaou, c'est de lui qu'il s'agit, sont recueillis par Nana Pluriche Mambo.
Après analyse des revendications, les parties se sont mises d'accord pour suspendre la grève des déclarants en douane en formulant les recommandations ci-après. 1. Les questions relatives au PNHF à l'OCC feront l'objet d'analyse lors de la réunion technique prévue pour ce mercredi 16 octobre 2024 à 16h. 2. Quant aux préoccupations relatives à la RLT, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a informé la séance qu'il a diligenté un audit couvrant 3 ans de 2021 à 2023 en y impliquant l'IGF. 3. Quant aux revendications relatives à la société Maersk, un début de solution est déjà en cours, dont le perfectionnement sera atteint par la création d'un comité composé de 5 délégués désignés par les corporations des déclarants douane Congo Central et de Kinshasa et qui ont été désignés séance tenante les représentants de la FEC et du cabinet de Son Excellence Monsieur le VPM MTVCD. De ce qui précède, les corporations des déclarants douane demandent à tous leurs camarades déclarants des membres effectifs des corporations du Congo central et de partout d'ailleurs, de répandre leurs activités régulières.
Parlant de transport, nous venons d'apprendre qu'un incendie a consumé plusieurs bus de la société de transport Transco ce mardi après-midi à Kinshasa, précisément dans ses entrepôts à Massina-Siforco, son siège administratif. Il n'y a pas eu mort d'homme. Son directeur général affirme qu'il s'agit en majorité des anciens bus Volvo déjà déclassés. La cause de ce brasier serait, d'après lui, liée à un accident lors du dépiècement des épaves de bus destinées à la vente. Et puis le département d'État des États-Unis d'Amérique a remis ce mardi à l'inspection générale de la police nationale congolaise du matériel informatique pour lui permettre d'accomplir ses missions de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête au sein de la police. Une dotation qui constitue un apport très capital à l'IGPNC, notamment pour les services d'investigation, encore dans le besoin de la logistique pour contrer toute bavure dans toutes les unités de la police, souligne son commandant, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchi Diav. D'autres détails avec Billy Ivan Lutumba.
C'est à travers l'ONG suisse Conjita NL que l'IGPNC a réceptionné ce matériel juste après le réaménagement des bureaux ainsi que l'achat de 4 jeeps neuves des fonds reçus du gouvernement. Fabien Barthez, chef du projet Conjita, donne quelques détails sur le matériel remis.
Nous avons remis 32 ordinateurs, 16 tablettes Android, donc des outils qui seront pratiques pour aller sur le terrain, faire des photographies, des auditions. 5 serveurs équipés de logiciels spécialisés. Nous avons remis 7 imprimantes.
Rapport en matériel informatique, indique le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiav, arrive à point nommé pour le service d'investigation qui est appelé à descendre aussi sur terrain.
Ces appuis viennent résoudre les difficultés que nous avions en termes de matériel informatique pour l'une de nos directions phares, la direction des investigations. L'inspection générale de la police, dans sa phase de campagne de vulgarisation de ses missions, salue également l'accompagnement des congétants, le déplacement des inspecteurs dans des provinces, la formation et autres plusieurs appuis que vous-même vous avez déjà oubliés.
Signalons que depuis février 2024, l'IGPNC est lancé dans une vaste campagne de vulgarisation des missions de son inspection pour faire promouvoir les droits humains dans le travail de la police à travers le pays. Pour ce faire, ainsi c'est le commandant de l'IGPNC, le besoin en moyens de locomotion demeure important.
Actualité internationale.
Un peu moins d'un an après un accord signé entre Rome et Tirana, l'Italie a transféré lundi 14 octobre un premier groupe de migrants vers l'Albanie pour externaliser la demande d'asile de certains hommes interceptés ou secourus en mer Méditerranée dans ce pays tiers. L'Italie s'appuie toutefois sur des centres de rétention surveillés par Rome et où s'applique le droit italien. La Grèce fait partie de 15 pays européens qui souhaiteraient que Bruxelles s'inspire de ce modèle italien.
L'invité.
Santé mentale au travail, c'est le thème cette année de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre dernier. Le psychologue Semou Vincent, notre invité, nous alerte sur les comportements toxiques qui peuvent nuire au bien-être mental en entreprise. Il appelle à l'action pour un environnement de travail plus sain où employeurs et employés collaborent pour favoriser une culture positive. Il s'entretient ici avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Semou Vincent, bonjour.
Bonjour Madame Rosalie.
Selon vous, c'est quoi l'importance de mettre l'accent sur la santé mentale au travail cette année?
C'est parce qu'on constate que la plupart des personnes qui ont du travail, ils font ce travail-là, mais ils n'ont pas le temps de préserver leur état de santé mentale. Quelqu'un, sur les 24 heures que nous avons, il va travailler jusqu'à 16 heures, même jusqu'à il a 18 heures du travail. Mais on se pose la question, quand est-ce qu'il se repose? Quand est-ce qu'il fait les loisirs? Parce qu'il faut bien le dire que selon Jean Amos Comenius, nous avons normalement 8 heures de travail, nous avons 8 heures de loisirs, nous avons aussi 8 heures de repos. Mais il suffit seulement de faire une enquête à la population, par exemple ici à Goma, où ce n'est pas là où nous sommes en train d'être suivis, demander à la population, quel est votre loisir, madame? Quel est votre loisir, monsieur? C'est un travailleur, mais il n'a pas un loisir. Ça veut dire, nous sommes en train de nous concentrer dans le cadre du travail seulement, mais nous oublions que pour que ce travail-là soit productif, soit vraiment fructueux, il faudrait que nous puissions aussi préserver notre état de santé mentale en respectant les heures de pause. Vous savez, actuellement, il y a aussi une inadéquation entre les profils d'études, par exemple, et les postes qu'on est en train d'occuper. C'est un problème parce que tous les jours, au lieu du travail, on est stressé. Ça, c'est d'une part. Autre part, c'est, par exemple, avec certains responsables des entreprises qui ne savent pas respecter les agents. Un chef est en train de dire à son subalterne que mais ça, c'est quel genre de rapport? Mais toi, tu as fait quelles études? Donc, il n'y a même pas le temps d'apprécier positivement ce que les travailleurs ont fait, mais on ne fait que donner des remarques. Donc, dans ces cas, nous voudrions demander au boss qui sont en train de nous écouter à pareil moment que la bonne santé mentale en milieu du travail a beaucoup d'avantages parce que ça permet à ce que les agents puissent se sentir à l'aise. Parce qu'allez-y comprendre qu'il y a dans certaines organisations où les subalternes ne se sentent à l'aise lorsque les boss voyagent. Et quand il revient, c'est comme si les personnes sont mouillées. C'est pas bien. C'est vrai, on doit appliquer les règlements d'ordre intérieur, les manuels des procédures administratives et financières. Mais c'est aussi très important de savoir qu'une bonne collaboration entre boss et subalternes est très, très, très importante pour booster le travail en avant. Et dans le même sens, c'est très important que nous, subalternes, nous, agents, que nous puissions aussi savoir que la maîtrise parfaite de ce que nous faisons, c'est un élément qui diminue le stress. Parce que vous constaterez que quelqu'un a effectué son travail pendant longtemps, mais jusqu'à ce qu'il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Ça veut dire, de lui-même, il ne se sent pas à l'aise. Et dès lors qu'il n'y a pas une bonne santé mentale au milieu du travail, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est le fait de repousser les tâches qu'on allait faire maintenant, on les repousse pour plus tard. Alors, on a parlé de cette thématique, c'est pour sensibiliser la population entière que lorsque nous travaillons, nous ne devons pas mettre de côté notre santé mentale.
Et entre collègues, comment travailler pour améliorer la santé mentale?
Dans les milieux professionnels, nous passons beaucoup de temps. Et dès lors qu'entre collègues, nous ne collaborons pas, nous ne nous entraidons pas, ça devient un milieu stressant. Parce qu'il faut bien le dire qu'il n'y a personne qui connaît tout et il n'y a personne qui ne connaît pas tout. Ça veut dire que nous nous complétons mutuellement. Et ça va faire à ce que nous puissions souder des bons liens et faire à ce que même notre entreprise puisse aller de l'avant. Et entre-temps, entre nous, nous préservons une bonne santé mentale.
Et est-ce qu'il y a des pratiques individuelles, des comportements positifs qu'on peut promouvoir au sein d'une entreprise pour favoriser la santé mentale de tout le monde?
Si on veut garantir une bonne santé mentale au lieu du travail, c'est très important d'avoir une planification. Parce que vous constaterez que la plupart d'agents, ils vont au lieu du travail, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est au lieu du travail qu'ils commencent maintenant à imaginer ce qu'ils vont faire. Et parfois, ils vont passer autant d'heures, jusqu'à par exemple 13 heures, sans rien faire. Et c'est vers la fin maintenant qu'ils vont constater qu'ils ont des surcharges et ils vont prolonger la journée jusqu'à 20 heures au lieu du travail. Et là, on pense qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc, c'est très important d'avoir un plan. La deuxième des choses, c'est très important de fournir un effort, de maîtriser son poste. Dès lors qu'on a un poste, ayons le temps de nous renseigner pour que nous puissions être compétitifs parce qu'on est à l'aise lorsqu'on maîtrise son travail. Aussi, respecter les heures de pause, avoir le temps de faire la marche à pied, avoir le temps d'écouter la musique qu'on préfère, d'être en compagnie, ne pas toujours être isolé. C'est entre autres astuces qu'on peut utiliser. Évitons d'aller avec le stress du travail en famille parce que un homme stressé, il va stresser son épouse, il va stresser les enfants. Et le stress du boulot va même stresser toute la famille. Ça va même impacter, même sur les résultats scolaires et les développements en famille.
Monsieur Semou Vincent, je rappelle que vous êtes psychologue. Merci.
Je vous en prie, madame.
Voilà de bons conseils à suivre et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Pelé Kipela Mondo, à Junior Kamunga, à Jude Bilanda et à Alain Ngoy.